Jacques Darras, un poète au pays des Belges, de Mélanie Godin et Vincent Matine Walcon. Cette réalisation radiophonique est librement inspirée du livre « La reconquête du tombeau d'Émile Verhaeren » de Jacques Darras, paru aux éditions Le Cri. Avec la participation par ordre d'apparition de Geert van Nistendael, Jacques Darras, Laurence Viel, Monique Dorsel, les passeurs d'eau à Saint-Amand, Rick Emreix, conservateur du musée Émile Verhaeren, la voix d'Émile Verhaeren, Antoine Boot, Andy Firenze, Benno Barnard, les Gilles de Binge.
On est toujours en train de travailler, on tond les gazons dans nos lotissements, on raconte des contes faits à nos petits-enfants. Et puis, il y a évidemment, il y avait toujours, en toile de fond, notre lutte linguistique. Il vaut mieux d'écouter les poètes que nos propres complaintes ou bien les menaces des économistes. Parce que les poètes s'agenouillent devant la langue qu'ils ont choisie. Ils regardent, ils écoutent, ils prouvent que la Belgique est impossible. Voilà pourquoi la Belgique est indispensable. Notre pays a la matière première pour une bonne douzaine de guerres civiles. Or, il n'y a pas de guerre civile en Belgique. On ne tire pas. Nous causons, nous parlons, nous ivrons, enfin, tout le temps. C'est très ennuyeux et c'est absolument très fatigant. Ça, on le sait très bien. Mais quand un tire un revolver, ça ne dure pas 400 jours, n'est-ce pas? Ça dure une seconde, peut-être.
Comme s'il y avait terreur dans le territoire. Comme s'il y avait terreur dans le mot terre.
Je ne sais plus très bien comment j'ai rencontré Jacques. J'ai l'impression qu'il fait partie de mon paysage depuis assez longtemps. Je crois que j'ai dû sûrement le rencontrer au travers de Monique Dorsel, qui est une grande relieuse de poètes.
Il s'agit d'abord d'une rupture poétique en face d'un désarroi politique. C'est comment la poésie peut parler de la politique. Et comment la poésie peut-elle aujourd'hui parler d'un problème comme le problème belge ? La Belgique est en désarroi, symptôme du désarroi européen. Je veux traiter ce problème-là de façon pas grave, de façon assez légère, enjouée, vivante, rythmée. Et alors, j'ai inventé un fil narratif qui est une navigation.
Je voudrais que vous sentiez comme il fait froid, comme il fait soir, comme il fait nuit. Dors dans cette nuit de février à Bruxelles, quand on est seul, comme je suis à l'instant. Parce que je suis le narrateur, parce que je suis en attente d'action, de personnages, de personnes à qui parler, de qui parler. Parce que je n'existe que quand je parle. Parce que je n'existe que quand je parle et que je le dis. Parce que nous n'existons qu'en parlant. Parce que c'est mon rôle de prendre la parole le premier. Narrateur, je suis individu choral. Narrateur, j'écoute les voix en moi, les cris. J'adhère à l'intensité des phrases, des intonations autour de moi. Je marche en bordure du bruit assourdissant de l'océan des mots. Je suis sur une plage. Je distingue des débris, des fragments. J'opère un tri avec l'oreille. Je suis prosateur, récupérateur. Je suis relieur de débris, de reliques. Je compose un reliquaire de voix vivantes avant qu'elles ne s'éteignent. Je crois au naufrage comme une religion naturelle. Mais où sommes-nous à l'instant précis ?
Et cette navigation, je la fais partir de Bruxelles et je la fais arriver à Saint-Amand, ou Saint-Amans, où est ce fameux tombeau d'Émile Verhaeren, ce tombeau spectaculaire qui va vers Lescaut, d'aller reconquérir le tombeau d'Émile Verhaeren, non pas parce qu'il est au milieu de la Flandre, mais parce qu'il veut en faire une croise à l'européenne, car il trouve que autour de ce tombeau, on pourrait faire des commémorations européennes, poétiques, totalement exemplaires.
Gaat hij dan? Ja, ja, we
zullen het zeggen. Ja, we zullen het zeggen. Aan matin, juske 9
uur zwaar. Behalve om 12.30 uur. De winter van 7 tot 6, hè?
Ja.
Die vijf zijn er 7 juske 18. En l'été juske 19 uur.
En het is een kleintje, een uitzending, documentarische uitzending, over het museum.
Bienvenue au musée Émile Verhaeren. C'est un musée qui a été créé en 1955. L'histoire du musée, c'est aussi un peu l'histoire politique de la Belgique.
Cette situation complètement magnifique d'un poète flamand, Émile Verhaeren, de terre flamande, qui parlait en français, ce qui était encore complètement possible à l'époque. Et ça représente, c'est emblématique d'une certaine Belgique ou d'un certain mélange de cultures, ou je ne sais pas, que je trouve moi aussi très fort. Et c'est vrai que ce tombeau là, au bord de Lescaut, ce tombeau tout noir, au bord de Lescaut, dans ce petit village de Saint-Amand, aller saluer ce tombeau, et j'ai passé une journée là, dans cette petite ville toute petite.
J'aime Émile Verhaeren. Depuis qu'écolier, mon père, l'instituteur au tableau, m'a envoyé devant mes camarades dire le vent. Et l'enfant que j'étais, 10-11 ans, frissonnait d'écouter Cornet novembre sur la bruyère infiniment. J'y étais. Nous y sommes.
Les cadrons des tours sur le rivage, le regard des peignés et acharnés, en emploiement de torches fondeuses et de muscles sauvages. Une rampe soudain cassa, que le courant chassa à vagues lourdes vers la mer. Celle là-bas qui le hélait dans les brumes et dans le vent, semblait tordre plus follement les bras vers celui qui n'approchait pas. Le facteur d'eau avec la rame survivante se prit à travailler si fort que tout son corps craqua d'effort et que son cœur trembla de fièvre et d'épouvante.
Je pense que c'est par l'école que j'ai dû connaître Émile Verhaeren. Et puis un jour, j'ai une marraine en Suisse que j'aime beaucoup, ma tante Silette, la sœur de ma mère qui est d'ailleurs d'origine flamande, et ma tante aussi, mais elles ont toutes les deux épousé un Suisse. Donc, ma tante flamande habite en Suisse italienne. Et donc, elle avait toute l'édition originale de l'œuvre, des œuvres complètes d'Émile Verhaeren. Et un jour, à Noël, elle m'a offert tout ça. Ça m'a fait replonger dans cette œuvre tentaculaire.
Le moment est venu de m'ouvrir du projet. Vous avez entendu le nom de Verhaeren. Ce poète de Lescaut fut un Européen inflexible, avant même que la guerre eût détruit pour un siècle l'idée même d'un lien entre vous, mes amis. Du flamand en français, quel mariage idéal! Je voudrais qu'en cortège, nous allions au tombeau d'Émile Verhaeren pour y ressusciter, pour y réanimer la langue même du poème au-delà de la langue dans laquelle il s'énonce. Verhaeren, le flamand qui s'exprime en français. Nous irions annuellement, à date symbolique, pluie ou vent, à voix haute, lire ces kyrielles de vers.
On a traversé en Belgique aussi toute cette périple politique, communautaire, et pendant toute cette période, en fait, moi dans le musée, on a été très loin de tout ça, de tout ce qui se passe au niveau politique. Et bon, quand on lit un titre comme « La reconquête du tombeau d'Émile Verhaeren », on interprète ça directement d'une certaine façon. Et moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que, à mon avis, tout le monde peut venir ici, tout le monde est toujours venu ici. Je ne sais pas pourquoi il fallait reconquérir le tombeau, parce qu'il n'y a rien qui a changé. Le tombeau est resté en tant que tel. Tout se passe dans l'imagination ou dans la perception des choses, naturellement. Et on doit tenir compte de la réalité de ce pays, donc... un musée sur un poète francophone en Flandre. Chez Verhaeren, il y a toujours cette dualité entre le poète du terroir et le poète européen, le poète de la culture, de l'enthousiasme. Hein, tout ça, il a su l'intégrer dans un seul personnage. C'est la grande particularité de Verhaeren, hein, du poète. On a une certaine tendance à mettre en évidence les poèmes, hein, où il parle de Lescaut ou du village, etc. Mais Verhaeren n'est pas du tout un poète du village, c'est un poète avec une vocation européenne, je dirais même mondiale.
Il y a beaucoup de voix anonymes qui se baladent dans mon livre aussi, des voix qui ne sont attribuables à aucun sujet. Absolument aucun sujet, donc en voilà une qui est une forme de fable.
Jason et les Jargonautes en aphasie mineure. Il était une fois un garçon nommé Jason, qui vivait dans un étrange pays. Le pays s'appelait l'Hémiblégique. Ne cherchez pas sur les cartes, vous ne la trouverez pas. Le pays est effacé. Nous allons vous dire pourquoi. L'Hémiblégique était divisé en deux. Dans une moitié, les habitants parlaient une langue, dans l'autre, une autre langue. Les deux langues ne communiquaient pas entre elles, même en traduction. Quand quelqu'un ouvrait la bouche dans sa langue dans l'autre moitié, tous se bouchaient les oreilles. Et réciproquement. Cela ne plaisait pas du tout à Jason. Comme son nom l'indique, Jason aimait le jazz. Claquant des doigts, esquissant un pas de danse, Jason jazzait, sans effet sur personne. Jazz, se disant jazz dans les deux langues, était un mot tabou. Personne ne voulait jaser avec Jason. Un jour, il ne le supporta plus. Il se mit en tête de trouver un remède qui guérirait son pays. Il s'exila. Il prit la direction de l'Orient. Il arriva près d'un fleuve coulant dans la mer Noire qui avait pour nom le Phase. Phasis, en grec, veut aussi dire la parole. En traversant le fleuve, Jason eut une surprise. Chaque rive avait sa propre langue que l'autre rive jargonnait, plus ou moins bien, tant bien que mal. Il demanda aux habitants le nom de leur miraculeux pays. Ceux-ci lui répondirent « l'aphasie mineure ».
Et évidemment que tout n'est pas blanc ou noir. Et que c'est une histoire passionnante de toute cette histoire de langue en Belgique, ce français, ce néerlandais, comment concilier tout ça. Et moi, je trouve que ce pays est extraordinaire parce que ça se concilie malgré tout. Et de là, tout ce qui se passe, ça continue à vivre ensemble. Alors qu'il y a des tas de pays qui ont déjà éclaté en guerre civile pour des questions pareilles.
à cette question du lien entre poésie et politique. Concrètement, le fait de mettre en lien des francophones et des flamands ou des néerlandophones, etc., ça a un tout petit impact politique, enfin politique dans le sens du vivre ensemble, où des gens qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer finalement se côtoient et se rendent compte qu'il y a des problématiques communes éventuellement. Mais je crois que la politique dans la poésie, elle est liée justement au travail de la langue et à la déconstruction de la langue et déconstruction des a priori qu'on peut avoir et des impensés dans la langue, quoi.
Dans mon texte, il s'agit de la Belgique. La Belgique a entendu qu'il y a quelqu'un qui aime la Belgique. Elle se demande, c'est qui ? C'est un flamand, c'est un wallon, c'est qui m'aimait comme ça ? Et donc non, c'est pas un Belge, c'est un étranger qui vient de la France. Donc c'est la Belgique qui dit dans ce poème comme elle est heureuse et elle tombe amoureuse de Jacques Darras et elle l'invite de venir ici.
Il y a quelque chose de très énergique qui se passe en Flandre. La poésie est très vivante, et peut-être liée justement à une question d'identité de cette langue qui doit se battre pour continuer à exister sur un plan international, etc. Et que du coup, il y a peut-être une surdétermination de la part des médias par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça aussi que le travail de Andy m'intéresse, parce que lui, il est assez rentre-dedans par rapport à cette question-là de poésie qui serait liée à une identité flamande, etc. Lui, il déjoue tout ça de façon assez à la fois juste et drôle, en fait. Et il met les pieds dans le plat. Et donc ça, c'est bien sûr aussi une des choses qui me plaît dans son travail.
J'avais jamais entendu de Jacques Darras, mais c'était comme il donne des compliments à toutes nous, à tous les Belges. Donc on se sent bien quand on lit ce texte.
Past u aan.
Adapte-toi.
Het is niet gelogen dat ik bloosde toen ik hoorde en las.
J'ai piqué un phare quand j'ai lu et entendu.
Dat er iemand bestaat die mij fel bewierookt en bezingt.
Il y a sur terre quelqu'un qui m'encense et me loue.
Geef toe, hoe zou het gezelf zijn indien jij een land waart zo lilliput als ik?
Avoue, tu te sentirais comment si t'étais un pays lilliputien comme moi?
Voor toeristen ben ik niet meer dan een tussenstop.
Pour les touristes, je ne suis rien qu'une pause pipi. Pour les historiens, un champ de bataille dont la terre défoncée n'a jamais été rebattue. Donc, je me demandais qui pouvait bien être cet homme qui frétille après moi. Mais Dieu merci, ne lève pas la patte.
Het moet een Belg zijn.
Ça doit être un Belge qui ne m'a pas encore déclaré morte.
Zou het een Vlaming zijn?
Un Flamand.
Een Waal.
Un Wallon.
Een goed geïntegreerde Marokkaan.
Un Marocain bien intégré.
Maar nee, begot.
Mais non.
Het is een vreemde.
Mais non, bon sens, c'est un étranger.
Jacques Darras is zijn naam.
Son nom, c'est Jacques Darras. Alors écoute.
What do you learn at school today, Timmy? That Belgium is the capital of Brussels, mommy.
Et sache, je ne te ferai jamais rapatrier. Pour toi, je récure mes rues. Pour toi, mes bars seront garantis sans baraquis. Et mes toits couverts pour la fête de ma plus belle toile cirée. Goûte à ma fièvre intérieure et caresse de talent lyrique mon sol plein de bons brouillés. Attouche mon profil fou, partage mon ébriété totale et hurle avec moi ce nouveau chant populaire. Tu ravives ma soif d'anarchie. Vas-y, tire mon majeur. Allez, adapte-toi et lâche-toi.
soit en moi, soit à cache et gueux. Ma fièvre à faire la fête revit dans mes villes éclairées à mort. Adapte-toi, adapte-toi et lâche-toi.
Vas-y.
Pénètre mon centre à fond la caisse.
Attouche-moi.
Pas de limite et couche avec moi.
Viens ici, beau mec, et oublie le temps à jamais.
J'ai déjà écarté mes régions pour toi.
Mir schon erwähnt, er verhegt vor ewig der Zeit. Ich heb mein Gewissen all vor u gespreit.
Il y a quelque chose de très physique chez Jacques. Jacques amène une matière de très généreux et de très physique. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'écrire des poèmes, et ça se ressent au niveau de son écriture et au niveau de toute son aventure poétique, parce que c'est vrai qu'il déborde le simple domaine de l'écriture. Il s'intéresse aux autres. Ce n'est pas toujours le cas de tout le monde. Il donne un rapport au monde, c'est ça qu'il nous apporte. Et son domaine est riche, il est fort, il est généreux, il est vivant, il est physique, il est charnel. Donc on peut l'incarner avec bonheur, quoi. Et c'est ce qui me fait plaisir quand je peux lire du Darras. Bon, c'est bien, quoi, je lis du Darras.
Dis donc, l'Européen, mets une sourdine à ton Parlement. Tu es à bord de mon train personnel. Compris ? Le train de Grand Macabre en personne. Ça te rappelle quelque chose ? Parce que, vois-tu, tu as pris place à bord du train de la mémoire, Bruxelles. Et toi, tu fonctionnes encore à la poésie classique, au vers antique, autant dire à la vapeur d'eau. T'as vu ce que ça donnait, la vapeur d'eau, quand on s'appelle Émile Verhaeren ? Dépasser la poésie, parce que nous ne sommes plus nulle part dans l'espace, petit Européen. Nous avons quitté pour toujours la poésie. Adieu les images. Nous sommes dans le temps. Grand Macabre réécrit l'histoire. Grand Macabre rentre à toute vitesse dans le passé. Grand Macabre choisit ses embranchements. Ce n'est pas le canal de Lescaut sur quoi nous naviguons, c'est le lit de la Lys. Cortrec, Cortrec.
Alors, je suis en Belgique, je le sais, je suis à Bruxelles, j'en suis bien conscient, mais je veux dire quelque chose qui peut éventuellement choquer l'éditeur purement strictement francophone de Radio Panique, c'est que j'ai un corps fantasmatique de linguistique qui est le néerlandais. J'adore le néerlandais. Dans sa forme, linguistique, phonétique, sa musicalité. De sorte que je me dis, si j'étais né belge, et je suis bien conscient de n'être qu'un belge provisoire, j'aurais passé mon temps à traverser la frontière linguistique. Je n'aurais pas simplement fait que traduire des poètes néerlandais, j'en connais beaucoup, vous avez mentionné Benno Barnard, mais j'aurais écrit des deux langues. J'aurais écrit en néerlandais et en français. J'aurais mélangé, j'aurais croisé le français et le néerlandais. Et c'est le rôle des poètes, pour moi, le rôle majeur des poètes, de travailler aux frontières.
Quand on s'est rencontrés pour la première fois, on a reconnu ça mutuellement, moi du nord, lui du sud, qu'on aime la Belgique comme pays très européen et en même temps tout à fait différent. Jacques connaît bien la Belgique. Et ce qui est très spécial pour un Français, il connaît même un peu de néerlandais. Pas trop, mais quand même un petit peu. Mais il connaît surtout très bien l'histoire de la Belgique. Il y a quand même des gens comme nous, des fous comme nous, qui prétendent qu'il y a un certain avantage dans un pays impossible comme la Belgique. Voilà. Le fait même que je parle maintenant à une jeune francophone dans ma propre cuisine, elle me comprend malgré mon français, elle comprend même un tout petit peu le néerlandais, j'ai l'impression. Bon, c'est déjà le fait qu'on se rencontre. Ce ne serait pas le cas si toi étais français, moi j'étais néerlandais. C'est parce qu'on est en Belgique, c'est ça, voilà. Il faut en profiter.
Dieu sait que les contributions de la Belgique sont multiples. Jan van Eyck, Pieter Bruegel, Lassus, Père Damien, Hergé, etc. Simenon, il y en a. Mais ce qui est très important, c'est notre humilité collective est chuchotée. La reconnaissance inévitable de l'autre, qui est proche de nous, qu'on touche, qu'on écoute, qu'on renifle, chaque jour, chaque jour, chaque jour, l'autre dont on ne peut pas disposer, l'autre qu'il ne faut pas chasser, voilà, pour moi, c'est le fondement, l'essence de la belgitude. La belgitude est tout sauf idyllique. On déteste l'autre, on suspecte l'autre. L'autre, c'est le coupable de tout, de quoi ? De tout. Il est le coupable de tout, le flamand, le wallon, le bruxellois. Et puis, on soupire et on se met à table, avec l'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. Et si ce n'était que ça ? Mais non, cet autre, cet étranger, est déjà une partie de nous-mêmes. L'autre, c'est notre mauvaise conscience. Mauvaise conscience qu'on refuse de regarder, de voir. L'autre nous montre un portrait de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir. Il n'est pas flatté, ce portrait. Et il faut regarder ce portrait, il faut le voir. Il faut voir ce qui est moche en nous-mêmes et par nous-mêmes dans l'autre.
Comme s'il y avait terreur dans le territoire. Comme s'il y avait terreur dans le mot terre. Arrive le moment de l'entre-deux. Curieusement, s'opère tout ensemble trêve, combat. Curieusement, alors, les deux amants cessent chacun de s'appartenir, chacun l'un à l'autre révélé. Il y a quelque chose de semblable dans le passage d'une frontière. L'histoire de la terre est histoire d'amour. L'histoire de l'amour que la terre a pour elle-même. L'histoire de tout amour véritable est histoire de crainte, en effet. Tout amour véritable est crainte de l'amour. Tremblement de crainte que l'amour éprouve au moment décisif, au moment d'abandonner la terre de son propre corps, au moment de la plus grande maîtrise, du plus grand abandon. Nous n'avons d'autre crainte en vérité que celle de l'amour, que de savoir où passe la frontière de l'amour, où passent les lignes amoureuses entre les hommes, que de savoir où les lignes entre les pays doivent être tracées.
Et là, c'était une île avant. Tu vois, là, avant, quand moi j'ai petit, le bateau, maintenant le scoop va comme ça. Mais avec le temps, ça a changé, parce qu'avant, il y avait une île. Et tout le bateau, ici, il y était presque par l'eau, et l'eau, c'était par là.
Ah oui.
Et automatiquement, avec le courant, c'est changé les rivières. C'est drôle, hein, de la nature.
Et vous avez des livres de lui chez vous?
Oui,
vous avez,
chez moi, oui.
Des fois, vous lisez.
Oui.
Mais en français, alors?
En français, hein.
C'était facile, quoi. Avant, comme le français, les gens connaissaient Emile Verhaeren en français,
oui.
Voilà. Mais maintenant, c'est plus compliqué. Hein.
Ah, c'est normal, c'est peu. Oui, c'est le temps aussi, c'est le temps qui change et les gens...
En même temps, c'est chouette qu'il soit traduit.
Oui.
Il y a une soirée avec Benno Barnard, vous connaissez
Benno? Ja, die hat die Dinge vertaald, die Franse.
Il a fait la traduction.
Oui.
Ah oui, c'est vrai.
Jawel, daarom heb ik dit... Als hem die vierste heb ik dat tegen Bernard verteld van dat nieuws.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Flamands qui connaissent Emile Verhaeren.
Ah non?
Non. Et si vous êtes dans la région, mais si vous demandez à Anvers ou à Anvers, Emile Verhaeren.
Mais d'ailleurs, tous les petits Français apprenaient leur Verhaeren à l'école. Tous les écrivains de la génération passée, parce que maintenant c'est terminé, mais à l'école primaire, on leur faisait réciter des poèmes de Verhaeren. Et je ne m'étonne absolument pas que Jacques ait découvert en Verhaeren un poète qui... C'est un frère, quoi. Ils ont des choses à se dire, si c'était vu.
C'est un cas spécial, un cas fédéral, évidemment, parce qu'il n'est pas assez régional. Il faut faire quoi avec? Pour les francophones, ce n'est pas en wallon. Et pour les flamands, il écrit en français. Donc c'est un peu un bâtard, donc un vrai belge. Bien que j'entends toujours le premier francophone qui écrit en néerlandais, mais ça c'est autre chose. Mais bon, à l'époque, il y a 100 ans, évidemment, que la langue dominante étant le français, il a écrit français. Et je crois d'ailleurs que son néerlandais n'était pas grande chose, autre que Maeterlinck, qui connaissait très bien le néerlandais, qui a traduit des choses du néerlandais. Mais j'aime bien Verhaeren parce qu'il est si typique pour son époque. Je trouve surtout, et Jacques aussi, je crois, qu'il y a quelque chose de très émouvant. Un homme qui a tellement cru en une Europe unie, qui a presque crié au peuple européen « Admirez-vous les uns les autres », qui était le grand poète européen, reconnu même à Moscou avant la télévision, traduit et propagé par Stefan Zweig, et puis c'est la guerre mondiale maladite de 1914, et tout à coup il devient un nationaliste belge. Il ne veut plus avoir de contact avec Zweig, il est très très anti-allemand, et c'est une tragédie vraiment, c'est la tragédie de l'Europe. Il échappe toujours aux définitions. Et Jacques comprend ça très bien, et le comprendrait même mieux s'il parlait néerlandais. Jacques, parce que pour vraiment comprendre, il faut connaître les deux langues. Mais j'ai traduit peut-être 5 poèmes de Verhaeren, si tu veux, je peux lire. J'ai essayé de vraiment copier le rythme, la rime et le tout, le mécanisme acoustique ou sonore d'un tel poème. Tu veux que je lise le français aussi ? Dans mon français redoutable. Quand les ciels étoilés couvrent notre demeure, nous nous taisons durant des heures devant son feu intense et doux pour nous sentir plus fervemment émus de nous. Les grands astres d'argent tracent la haute leur route sous les flammes de la lueur, la nuit étend ses profondeurs et le calme est si grand que l'océan l'écoute. Mais qu'importe que se taise même la mer, si dans l'espace immense et clair, plein d'invisibles violences, nos cœurs battent si fort qu'ils font tout le silence. Ça, je trouve une très, très belle image. En néerlandais, wanneer de hemel zijn intense tere vuur van sterren boven onze woning hangt, zwijgen wij beide lange uren. Zo voelen wij nog meer hoe ons naar ons verlangt. Die grote zilveren beschrijven ginds hun baan. Onder de vlammen en de luister is de nacht nog eens zo duister en de immense rust stilt zelfs de oceaan. Maar zegt het zwijgen van de zee wel iets, als in het heldere enorme niets, waar een abstract geweld rondwaart, het kloppen van ons hart de stilte openbaart.
La première, Pascal Tison. Jacques Barras vient d'écrire La reconquête du tombeau d'Émile Verhaeren, la vision d'un pays qu'il appelle hémiplégique, un nom qui évoque une maladie, un long poème sur l'Europe dont la Belgique serait le symptôme. Jacques Barras.
Et donc cette aventure de ce matin, en venant vous voir, est une aventure anecdotique qui s'est bien terminée, mais qui, d'une certaine manière, est une sorte de clin d'œil cruel et dangereux du destin.
Et lorsque ma jambe sur le quai de Debrouckeer, où j'attendais le métro, a glissé, mais de façon dramatique, dans l'espace entre le métro qui arrivait et le quai, et que je me suis affalé comme un pauvre ballot, quoi, comme ça, là. Et au moment où la porte s'ouvre, j'entends la voix de quelqu'un que je ne vois pas, parce que je suis occupé à dégager ma jambe du quai. Et alors, ce quelqu'un me dit, Jacques, chaque fois que tu me vois, tu tombes. D'abord, je me dis, mais d'où vient cette voix? Mais qui est-ce? Je lève les yeux et qui vois-je? Hirt van Nistendal, le poète belge, et bon, bruxellois, et qui, rigolant, mi-rigolant, mi-sérieux, qui va à son travail, en quelque sorte, et qui me te croise comme ça, alors que je venais vous voir et vous parler justement ça de la position d'un Français vis-à-vis de la Belgique actuelle. Savez-vous comment Émile va mourir ? Il a 61 ans, il est à Rouen. C'est un lundi, 27 novembre 1916. Il vient de conférencer devant des étudiants rouennais. Ça chauffe en 1916. Il a soif, il veut boire, le Belge. Ça chauffe, ça chouffe, sa mort subite. La gueuse. Vite, Émile entre dans un cabaret. Que voit-il ? Couit-il ? Des flamands à lui congénères, pas rédimés pour deux sous. Flamand parlant flamand, est-ce possible ? Oui, ça est. Émile, qui parle français depuis tout petit, Émile, qui écrit en français depuis tout grand, quoiqu'étant fluvialement, fluentement, scalde pur malte, flamand presque balte, Émile, donc, se souvient de l'écho quand lui réveille Lescaut d'avant qu'il eût vagi dans la langue de Hugo. Erreur monumentale ! Bouleversé, éméché, renversé, l'envers soi à l'envers de soi, prend la route de la gare. Gare, gare, gare. Voici qu'à 17h sur le quai qui est bondé, l'impatient n'attend pas que le train qu'entre-temps est rentré sans se faire remorquer et finit de freiner. Catastrophe, âme et strophe sont toutes retournées. Émile s'est suspendu, s'est pendu d'une main à la portière. Voici qu'il choie, qu'il glisse, qu'il échoie, qu'il réglisse le rouennais provisoire aux roues du train qui le traîne, qui l'étreigne, qui l'étreigne, qui l'entraîne. Poète, à l'hémistiche, par la césure, coupé.
J'ai suivi les Gilles de Binche pendant 3 jours et pendant une journée, depuis 4h du matin jusqu'à 11h du soir. Et à 4h du matin, je suis entré avec les Gilles chez l'habitant, car ils vont se chercher les uns les autres. Je les ai suivis avec les jambes, avec les pieds, avec le rythme, avec la danse. En transe, quoi. On ne sent plus la fatigue, mais on ne sent que de la musique et du rythme dans les jambes. Cette fatigue rythmique qui, dans le fond, est un poème majeur, un poème maximal, puisque, après tout, un poète s'intéresse prioritairement au rythme.
Où Verhaeren a-t-il fini ? Il a fini dans un tombeau. Un tombeau dans la terre ? Non. Un tombeau dans l'air, au-dessus de l'eau. Oh, 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 oh ! Mais quel tombeau ! Oh, 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 oh ! Nous tombons tous de haut. Est-ce qu'ils l'ont enterré ? Est-ce qu'ils l'ont enerré ? Non, ils l'ont enfleuvé. C'est très belge, c'est très beau. À l'homme de Saint-Amand qui a su faire de l'eau d'une picarde rivière une eau de diamant, une poésie joyau, qu'il brille, qu'il scintille au firmament 10 000 et 1 000
et une nuit.
Mein Wurm, mein Wurm, mein Wurm se flamme. Entendez-vous ce rythme? Entendez-vous cette flamme dans le rythme? Entendez-vous cette flamme flamande dans le rythme de mon vers? De flamme, ce flamme, van het rythme van mijn poésie. Mijn flamme, ce poésie. Mijn flamme, ce rythme onder de Franse woorden. Hoort jij? Hoort u? Ah, comme je suis ému. Ah, comme vous m'émeuvez, m'émouvez, me mouvez. C'est la toute première fois que j'entends cette musique. C'est la toute première fois que je sens la musique de mon corps dans mon corps. Mon corps. Flamand, mon corps de danseur flamand, de danseur bruegelien flamand sous les mots du français. Vous entendez, vous m'entendez tourner sur moi-même. Regardez avec quelle agilité à l'instant je sors de mon tombeau.
C'était Jacques d'Arras, un poète au pays des Belges, une production de l'Arbre de Diane et de la CSR, atelier de création sonore et radiophonique. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Prise de son, réalisation, montage, Vincent Matine-Walcan et Mélanie Godin. Musique originale, Dan Barbonel. Mixage, Christophe Rowe. Producteur délégué, Carmelo Iannuzzo. On remercie vivement pour leur aide et soutien Claudio, Frédéric Peters, Renie de Massener, la Bibliothèque de Saint-Jos, la librairie Tropisme, Radio Panique, Pascal Tison et Renaud Lambiotte.